Mais premièrement,
plus on apprend, hein,
le fait de savoir lire et écrire,
plus on est capable d'apprendre,
te permet de communiquer avec le monde,
de comprendre les mots
un peu plus,
d'écouter,
de faire comprendre.
Moi, je pense que c'est une base,
te permet de plein de choses dans le fond,
absolument fondamentale.
Oui, salut, moi c'est Paulo, le frère à cheval et son ami Katam. On est ici au centre de détention de Nakona, une rencontre, discussion avec nos amis ici. Et aussi un petit spectacle pour couronner le tout, des petites chansons, un petit jam entre amis. Une ambiance assez de fête, assez festive, on dirait, malgré les incidents, les choses qui peuvent, les aléas qui peuvent arriver.
Salut Polo, salut Katam, salut Mohamed, puis je vous remercie beaucoup pour votre présence.
Bonjour, je m'appelle Stéphane.
Bonjour, je m'appelle Michel.
Bonjour, je m'appelle Bob.
Salut, moi je m'appelle Yann.
Salut, moi je m'appelle Pierre.
C'est Dave, merci.
Bonjour, je m'appelle Yves. Je dis bonjour à Polo, à Katam, ton fils, à toi Mohamed et à tous les souverains de Donnacona.
Bonjour, je m'appelle Christian. Polo, ton groupe, toi, c'est les frères à cheval.
C'était les frères à cheval, hein?
C'était, ouais.
Là, c'est Polo et les frères, du coup.
C'était de parenté avec les cowboys fringants.
Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus de cheval. Il y avait trop de cowboys dans le salon.
C'est pas toi qui chante « L'argent fait le bonheur »?
Moi, mon voisin, c'est un Jamaïcain. C'est ça que je chante.
Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. S'il vous invite chez eux, allez pichette de banane. Amenez vos frères, vos sœurs, le chum pis le blond. Amenez le plus de monde. Vous allez voir du rhum pour tomber des pommes. Aïe, 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 aïe.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Lotfi. Pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation, je me suis rendu au centre de détention fédérale de Donnacona avec Polo, du groupe Polo et les Frères, et Katam, un percussionniste, donc pour parler de savoir écrire, savoir lire, savoir communiquer avec les détenus de Donnacona. Je leur ai posé plusieurs questions que vous allez comprendre à travers leurs réponses. À la veille de l'enregistrement de cette émission, les souverains de Donnacona ont perdu un des leurs. Il s'appelle Pompon. En leur nom, je dédie cette émission spéciale à Pompon.
C'est Yves. Quand je suis rentré en prison, moi, je savais écrire, je savais lire, mais j'étais tout simplement un lettré fonctionnel. Je pouvais me faire comprendre. Si on lisait une de mes lettres, même s'il y avait une faute à toutes les trois mots, on comprenait ce que je voulais dire. Bonjour, maman, comment ça va? Ici, c'est plate. Mais c'est, comme je l'ai entendu un peu plus tôt, l'orgueil, moi, qui m'a fait avancer. C'est l'orgueil de faire des fautes, de trouver quelqu'un qui remarque mes fautes dans une lettre, par exemple, qui m'a fait vouloir aller à l'école, vouloir continuer, vouloir persévérer dans l'apprentissage du français. Oui, pour moi, c'est absolument fondamental. La plupart des choses que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est parce que, je me suis levé par les straps de mes propres bottines, si tu veux, puis que j'ai appris à ma langue, entre autres.
Bon, moi, c'est Christian. Je pense que d'apprendre à lire et à écrire, c'est évident que c'est la base de toute communication. Puis aujourd'hui, lire, c'est la base de l'acquisition des connaissances. parce que si il y a des gens qui ont des traditions orales, par tradition orale, tu vas pouvoir élargir tes connaissances, mais pas autant que par la lecture, puis pas de façon aussi diversifiée et éclectique. Ça fait que c'est une communication que tu vas pouvoir transmettre. Puis d'ailleurs, on dit que les adultes qui lisent habituellement, ça a été transmis par des parents qui lisaient. Ils ont fait des recherches là-dessus. Fait qu'à partir de là, par les mots, tu vas exprimer des idées, tu vas exprimer des faits, tu vas exprimer des connaissances. Puis à un moment donné, ces connaissances-là, par les mots, tu vas arriver à les transcender. Puis c'est là où tu arrives à l'art, à l'écriture de livres, à la poésie, par exemple, aux textes musicaux. Ça fait que sans savoir lire, sans savoir écrire, on se prive de tout un monde qui nous environne, finalement.
Salut, moi, je m'appelle Pierre. Quand je suis arrivé en prison, là, je savais lire, tu sais, comme que Yves, il expliquait, je savais, j'étais capable d'écrire une lettre à ma mère et à mon père qui me comprennent, puis, tu sais, sans compter le nombre de fautes que je faisais, là, ça va, pour moi, ça va pas d'importance, puis je pense pas pour les personnes à qui j'écrivais non plus. Mais tout ça pour dire que le fait d'écrire, c'est que dans ton écriture, c'est que tu vas pouvoir te permettre de dire des choses qu'en personne tu diras jamais. Tu sais, comme moi, mon père, là, présentement, il est mort aujourd'hui. Mais quand je suis rentré en prison, il était vivant, puis à ma connaissance, je me souviens pas d'y avoir dit devant lui, mais pas je t'aime, puis tu comprends-tu? Mm. Puis dans mes lettres, mais quand je suis arrivé en prison, c'est des affaires que tu peux dire. La personne n'est pas devant toi, tu peux t'exprimer, tu te permets de dire bien des choses que devant la personne en question, tu ne diras pas. Pour la raison pourquoi, je ne le sais pas.
Est-ce que tu as écrit? Tu lui as écrit aussi?
Oui, c'est ça, je t'ai dit. Qu'à partir de prison, je me suis permis, dans mes lettres que j'écrivais à mon père, à la fête des pères, à sa fête, à Noël, mais dans toutes les lettres, je disais que je l'aimais. Tu comprends? Puis quand personne, avant ça, mais jamais, je me souviens pas d'y avoir dit de mes mots, mais pas je t'aime. Tu comprends-tu? À ta mère, oui, je le dis, à ma fille, mais à mon père, c'était de quoi que, je sais pas que c'est qui m'empêchait de le dire en homme.
C'est un peu comme lui, il disait, c'est un peu comme l'orgueil qui t'empêche de dire ça à ton père, mais c'est l'orgueil aussi qui fait que tu veux l'écrire, puis là, quand tu commences à être bon en écriture, tu dis, ben là, je suis capable de dire, puis c'est l'orgueil qui fait que tu veux vouloir bien l'écrire, tu sais. C'est le même orgueil qui fait que tu veux pas dire, je t'aime à ton père, mais que tu vas y écrire.
C'est ça. Puis comme je te dis, c'est pas parce que j'avais écrit, là, j'arrivais en prison, là, puis je suis même dans le fait de dire, pas je t'aime, je devais faire des fraudes, tu comprends? Mais le fait que la personne n'est pas là, t'es tout seul, t'es dans ta cellule, mais tu te permets de dire, d'écrire ce que tu penses, puis tu sais, t'as pas d'obstacle.
En quelque part, c'est une libération dans tout
ouais,
ça.
C'est une manière de t'exprimer que tu feras pas autrement, je pense, là, tu sais.
Tout à fait.
On parlait de l'influence tantôt. Moi, chez nous, j'ai pas été exposé à une influence comme ça. Mes parents n'étaient pas vraiment des lecteurs à part des magazines puis le journal. Là. J'avais mes Tintins, tu sais. Puis c'était en masse, les petites bulles à lire. Là, j'ai pas appris ça. Moi, dans mon expérience personnelle, ma vie, ça a été la prison. J'ai été en prison, j'ai 50 ans presque aujourd'hui. Je l'ai été depuis l'âge de 18 ans, à toute fin pratique. Et puis, j'ai remarqué aussi que plusieurs autres, comme moi, qui sont entrés en prison dans les années 60 ou 70, qui ont fait beaucoup de réclusion, de trous, de cellules, parce que c'est avant qu'on ait la radio puis les télévisions dans nos cellules, là. Moi, c'est la prison qui m'a forcé, entre guillemets, à lire. À un moment donné, quand tu es emprisonné au trou pendant des semaines, des mois parfois, c'était quelque chose de très courant jadis, puis je pense que ça l'est encore. Le trou est pas mal achalandé ici. Tu commences à lire, absolument. Tu as le droit, tu avais le droit. C'était même dans la loi, l'ancienne loi qui avait été rédigée sous Pierre-Éliott Trudeau, nous donnait accès à des livres. On avait le droit d'avoir des livres, une Bible, whatever. Puis je me souviens que c'est probablement là que j'ai lu mon premier roman.
Parce que là, tu n'as pas le choix.
Oui, puis j'ai aimé ça. puis j'en ai relu un autre. Puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui connaissaient des noms d'auteurs, Camus, puis Céline, puis...
Tu t'es dit, je vais aller
un,
voir ça.
Puis un autre. Puis je me dis, comment ça j'ai pas ça, moi? Comment ça que je connais pas ça, j'ai pas lu ça, moi, Baudelaire, puis Victor Hugo, puis... À un moment donné, j'ai été influencé par un autre prisonnier. Un prisonnier qui était plus cultivé que moi. Puis, encore une fois, peut-être c'est l'orgueil, mais il m'a fait connaître Louis-Ferdinand Céline. J'ai commencé à lire Émile Zola. De fil en aiguille, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un univers de pensée qui existait sur la Terre, qui avait existé, qui existait, puis qui existerait probablement. Puis on avait tout ça, comme Christian le disait tantôt. C'est tellement vaste, une bibliothèque, là. C'est pas des rapports oraux seulement, là.
Je pense que les gens qui sont analphabètes sont comme nous autres en prison, puis ils savent pas. Puis si tu regardes dans l'histoire, la plupart des dictateurs tenaient les gens loin de l'éducation pour pouvoir continuer à les diriger facilement. Parce que si tu sais pas ce qui se passe ailleurs, t'as pas communiqué, tu le sais pas. Fait que si tu le sais pas, tu peux pas le vouloir, tu peux pas le désirer. Puis ici en prison, je pense que c'est encore plus évident pour nous autres. Parce que on est au service correctionnel. Eux autres ont établi des lois, ils ont établi des directives qu'ils doivent suivre. Puis le fait qu'il y a beaucoup d'individus qui sont plus ou moins instruits, souvent on fait abuser de nous, puis on ne sait pas. Parce que les autorités ne respectent pas la loi, puis ne respectent pas les directives. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas revendiquer. Si tu es incapable d'écrire, tu ne peux pas revendiquer non plus.
C'est très vrai.
Fait que, puis, finalement, l'écriture, la lecture, c'est un apprentissage de la liberté.
Christian parlait, je me disais que aussi c'est raffiner son pouvoir de lire, c'est un pouvoir
absolument
en soi.
Ah ouais.
Son pouvoir d'écrire, son pouvoir de contrôler les mots, de connaître les mots qu'on possède.
Absolument.
Moi, Mohamed tantôt nous demandait de raconter une anecdote. Je peux en raconter une qui pourrait illustrer ce que je viens de dire. Il y a une vingtaine d'années, j'étais ici encore en prison, mais j'avais été jeté au trou en ségrégation administrative, puis parce que je contestais les autorités, je contestais certaines actions qu'ils prenaient, puis je m'étais rendu compte, comme Christian disait, qu'il arrivait que les autorités désobéissent aux lois, désobéissent aux directives établies par le commissaire, etc. Et puis je contestais à ce moment-là. Et pour ça, on m'a mis au trou pendant 364 jours consécutifs, de 1987 à 1988. Mais il y a 20 ans déjà, j'avais commencé à maîtriser un peu mieux l'écriture, soit en anglais ou en français. Et je me suis rendu compte que c'est un pouvoir, justement, parce qu'à partir de ma cellule, je n'avais pas de télévision, pas de radio, mais j'avais un crayon, du papier à écrire. Je me suis mis à lire les directives du commissaire qui se rapportaient à mon cas en particulier. Je me suis mis à lire les textes de loi, à les comprendre bien, parce que je connaissais les mots, puis j'avais un dictionnaire dans ma cellule là, quand je ne connaissais pas quelque chose. Et puis je me suis mis à écrire à nos dirigeants, au premier ministre, aux députés, aux sénateurs. J'y allais à peu près, parce que je ne savais pas vraiment à qui écrire. Je ne savais même pas ce que c'était un solliciteur général à l'époque. Je l'ai su, ça n'a pas été long. Mais de fil en aiguille, à force d'écrire puis de recevoir, puis là, je me rendais compte que ces gens-là prenaient mes lettres au sérieux.
Tu pouvais donc te rendre jusqu'à ces autorités-là.
Et être pris au sérieux.
Sans avoir cassé rien, là.
Non, non.
Tu sais, juste en écrivant, en disant ce que tu avais à dire, finalement.
Effectivement. Et j'avais l'impression de me faire prendre au sérieux puisque je recevais des lettres de ces ministres-là puis de ces sénateurs-là. Mm-hmm. Puis de fil en aiguille, ben ça l'a fait boule de neige, ça. Ce petit peu de culture-là que j'avais réussi à amasser, là, ben ça, c'est devenu énorme, énorme, mm-hmm. énorme, si bien que en 87-88, tout le monde au Canada savait ce que j'étais dans le trou ici. C'était dans les journaux, c'était à la télévision, en Alberta, en Colombie-Britannique, partout à travers le Canada. J'avais des activistes qui ils sont mis à m'aider, mais partout. Puis je me suis rendu compte que ça partait tout de mon stylo.
Ton stylo, papier, ouais. stylo.
Papier, stylo.
T'as joint tout ce monde-là.
Puis mon ami de femme qui faisait des photocopies de mes lettres dehors, puis envoyait ça partout. Alors c'est un pouvoir, c'est s'approprier c'est vraiment... Comme un de mes chums disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends.
C'est vrai, ça.
Bon, mais là, vous avez répondu presque à toutes les questions, juste à vous trois, là.
Tu veux-tu m'entendre pareil, moi?
Oui.
Bon, OK. Merci. Moi, présentement, moi, je suis arrivé ici, en prison. Mais ici, à Donnacona, ça fait à peu près 18 mois. Okay? OK. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été classé secondaire 3 dans mes études. Puis ça m'a pris même pas un an, puis j'ai fini mon secondaire 5. Présentement, je suis à l'université, je suis en administration. Mais quand on parle, là, comme, tu sais, je reviens un petit peu avec ta question 1, pareil, là, de savoir lire et écrire. Présentement, je suis en train de faire mon cours d'administration qui utilise un langage que je comprends, que j'ai de la misère à comprendre, tu comprends? Comme, mettons, il me donne un exemple. Moi, dans mon cours, il faut que tu mettes X nombre d'heures par semaine. Mais moi, je m'aperçois qu'il faut que j'en mette plus parce que souvent, il faut que je relise plus souvent parce qu'il y a des mots, il y a des vocabulaires que je ne comprends pas encore. Mais c'est normal parce que c'est des livres. Moi, premièrement, je n'ai jamais lu beaucoup dans ma vie. Avant de rentrer en prison, je n'ai jamais pris le temps de ça. Puis j'utilise un vocabulaire qui est peut-être pas mal plus simple que le cours présentement. Il y a bien des mots que faut que j'arrête, faut que je check dans le dictionnaire qu'est-ce que le mot veut dire. Parce que si tu lis, puis à un moment donné, tu rencontres un mot, puis tu prends pas le temps de savoir ce que le mot veut dire, puis tu continues, mais à un moment donné, tu comprends pas le sens de ton paragraphe, de ta phrase, whatever. Ça fait que c'est là que je m'aperçois qu'encore aujourd'hui, il y a bien des affaires qui me nuisent, que j'ai commencé tard à vouloir m'intéresser à ça, à lire et à écrire, parce que présentement, ce que je suis rendu dans mes études, je m'aperçois que sûrement que je vois moins vite que la plupart du monde qui sont là à l'université.
J'ai été à l'école, hein? j'ai traîné dans les écoles institutionnelles, puis à un moment donné, j'ai fini mon secondaire 5, puis j'ai flâné au cégep pendant quelques années, puis j'ai étudié avec plusieurs universités, parce que jadis, dans l'Ouest canadien, il y avait un campus universitaire dans tous les pénitenciers de la Colombie-Britannique. On parle d'un campus universitaire là, avec une bibliothèque de 25 000, 30 000 livres, des professeurs de l'extérieur qui venaient, un recteur de l'université locale. C'est tous des programmes qui ont été abolis maintenant parce qu'on s'est rendu compte que l'alphabétisation était une priorité parce que la plupart, c'était une minorité qui pouvait entreprendre des études universitaires alors qu'il y en a plusieurs qui ne savaient presque pas écrire ou lire. Alors, les temps ont changé en 31 ans. Là.
Bien sûr.
Et puis, c'est ça, je suis devenu comme Christian, à un moment donné, être professeur, assistant professeur dans des classes de français. Ensuite, je suis devenu professeur. J'ai enseigné l'anglais aux Anglais en Ontario, le français ici au Québec, au CFF à Drummondville en 1990. Et puis, va sans dire que mon français s'est amélioré, mon anglais aussi, parce que j'ai fait beaucoup de temps dans le Canada anglais.
Faut-il se trouver en dedans pour réaliser l'importance de savoir lire et écrire? Moi, je pense que c'est beaucoup plus important de savoir ça dehors, tu comprends? Parce que, écoute, t'as bien plus d'affaires, t'as bien plus ton environnement est bien plus large, tu as bien plus de choses à comprendre, c'est beaucoup plus utile pour qu'ils puissent appliquer, tu sais. Mais ce que le monde, là, sont, peut-être qu'il y a bien du monde qui ne le réalise pas, mais en prison, tu as un avantage que bien du monde n'a pas, c'est que la vie te permet, ta situation te permet de travailler sur toi. Beaucoup plus que dehors, regarde, faut que tu travailles, tu as tes enfants éduqués, tu as la vie qui tourne, tu as des activités, des lois. Quand dedans, là, c'est soit, regarde, tu perds ton temps complètement ou bien non, tu peux nous mettre tellement de temps à travailler sur toi que dehors, tu peux pas faire ça. Moi, regarde, j'ai 40 ans aujourd'hui, puis si j'aurais pas été en prison, là, c'est sûr et certain que je serais pas en train de faire ce que je fais là, c'est garanti. J'aurais même pas fini mon secondaire 5, moi, pas me ramasser en prison. Ça, c'est sûr. Ça fait que ça paraît bizarre, mais la prison te permet... Tu te donnes la chance, entre parenthèses, là, la chance de travailler sur toi que la plupart des adultes dehors ne feront pas là, parce que tu n'as pas le temps. Il faut que tu gagnes ta vie, ça fait que tu n'as pas le temps de mettre de l'énergie de même à apprendre. Tu as peut-être du monde qui a le chercher pareil, mais ils sont rares. Dehors, à un moment donné, la vie elle tourne. Puis, ça fait que tout ça pour répondre à ta question, que faut-tu être en dedans pour le réaliser que l'importance. Ça ne devrait pas, mais c'est en dedans que ça te permet de mettre le temps nécessaire et le faire. Ouais.
Donc, autrement dit, la prison, pour certains, même pour beaucoup, ça peut être quand même un élément déclencheur. Surtout lorsqu'on se trouve dans une situation justement de rapport de force avec l'autorité, comme il l'a expliqué Yves, où là, tu dis, bon, il y a un pouvoir qui me manque pour communiquer mieux. Le rapport de force, on l'a de toute façon, ici, ailleurs, n'importe où. Mais en dedans, ce rapport de force peut représenter un élément déclencheur, dire oh là là, maintenant, sinon là.
Oui, mais je suis d'accord, oui, puis non avec toi, parce que tu peux, tu sais, décrire une requête en avant. Si tu sais écrire, même si tu fais des fautes, regarde, ça t'empêche pas de dire que c'est qu'il ne voit pas. Puis moi, c'est plus le fait que je pense que c'est quand que tu réalises que les heures que tu as à rien foutre en prison, tu n'as rien d'autre à faire en prison que de t'entraîner puis d'étudier, là. Tu comprends?
Je vais te raconter une anecdote à vous tous. Écoutez ça. Une fois, un gars qui se plaignait tout le temps, venait me voir, il se plaignait tout le temps. Vous le savez, il y a du monde, il y a certains, des détenus à différents degrés. Il y en a qui se plaignent plus, il y en a qui se plaignent moins, il y en a qui veut pas se plaindre du tout parce que pour eux, c'est une perte de temps. Il y en a d'autres qui disent non, il y a des droits, il y a des revendications, etc. Ce gars-là, lui, il se plaignait particulièrement. Mais en même temps, il avait une grande qualité. Lui, il n'y avait pas de problème d'écrire ou de lire. Mais mieux que ça encore, il écrivait des très, très beaux poèmes. Et cette fois-là, je lui ai dit, écoute, je te propose ceci, parce qu'il se plaignait, et en plus de se plaigner, il se plaignait que ses plaintes ne donnaient pas de résultats. Donc ça tournait en rond comme ça. Alors je lui ai dit, oh, mais comment tu les fais tes plaintes? Et là, quand il m'a raconté comment il faisait ses plaintes, alors là on était loin du poète. Il n'y avait rien, il n'y a pas de poésie, pas en tout. Autant la poésie qu'il venait me la montrer à moi, là, aux artistes et tout ça, là, dans l'esprit des mémos, là, il n'y avait pas de poésie. C'était droit, c'était agressif. Et donc, lui, pour lui, finalement, c'était une façon de se défrustrer beaucoup plus qu'eux. Je lui ai dit, écoute, je te propose ceci, essaye ça. Ta prochaine plainte, ça va être un poème. Tu vas écrire un poème avec des rimes. Écris ce que tu veux, mais fais-le en poésie. Et donne-moi des nouvelles. Si je vous dis que ce poème-là est encadré à la maison de la personne qui a reçu la plainte. C'est la première fois que je le dis, c'est un secret que je dévoile, mais je ne vous dis pas ni qui, ni quoi, ni rien de tout ça. Mais si je vous dis que cette personne-là, le poème, la personne qui a reçu la plainte, ok ? Là, on ne parle plus s'il a réglé sa plainte. Il a réglé sa plainte, bien sûr. Mais ça a été tellement beau, ça a été tellement bien fait, ça a été tellement vraiment... Le gars, il a passé une nuit là-dessus que la personne qui a reçu la plainte est tellement impressionnée, il a fini par encadrer, faire un cadre, laminer. Et bien, je pense que... C'est-à-dire, on a des pouvoirs souvent, puis on ne sait pas l'utiliser dans des situations qui sont parfois difficiles et il suffit de chercher un peu, c'est tout.
Ta petite sœur me dit que je lui plais bien, y'a un tête pas de sœur, sinon qui fait bien, j'ai moi je pense qu'un jour ou l'autre il faudra bien que je déménage. La vie est une longue caravane. Y'a ta mère qui me regarde
travers. Quand je me promène, les fesses à l'air, ton père, il check le frigidaire. Depuis que j'ai fouillé dans sa bière, et je dégage la vie d'une longue cabane. Samedi pour que je m'en aille, que je pack mes petits dehors. Il neige, puis il fait frais, j'ai même pas le temps de mettre mes bobettes. Je me les gèle. La vie est une longue caravane. On revient toujours sur la même plure de banane. La vie.
Vous écoutez une émission spéciale avec les détenus du centre de détention de Donnacona, ceux que je peux appeler les souverains de Donnacona. Cette discussion sur l'alphabétisation, l'importance de savoir lire et écrire n'est pas terminée. On revient après cette pause.
À partir de ma cellule, en écrivant des lettres, en disant que je suis un prisonnier, je me suis trouvé un job de traducteur.